Puce.fr.
On se fait un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, chers auditeurs. Et oui, vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans pour l'émission consacrée à l'actualité cinématographique. Et je ne suis pas toute seule, comme d'habitude, j'ai une formidable équipe avec Gob, bonsoir.
Bonsoir, je salue le monde cinéphile et j'encourage toute personne se désolant de ce monde d'après plein de frimas qui nous balaye le visage, d'aller dans les salles de cinéma, car on s'y sent tellement bien.
Bonsoir Claude.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir Arnaud.
Bonsoir tout le monde.
Et bonsoir Vincent.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Céline.
Bon, mais merci Gob pour ton introduction, parfait. Pour cette émission, on va commencer tout d'abord par parler rapidement du festival Récidive. Qui a lieu en ce moment à Orléans, surtout au Cinéma des Carmes. Donc un festival qui est un festival de films sur cette année, l'année 1936, année du Front Populaire.
Et une belle année dans notre histoire de France.
Oui, effectivement, qui a mal fini après. Bon, bref. Donc événement qui a lieu du 23 au 29 mars. Donc en ce moment, au Cinéma des Carmes, il y a plus de 50 projections et de rencontres autour de la période de 1936. Et Claude, tu as assisté à l'ouverture.
Oui.
Et tu as rencontré Antoine Debecq,
oui.
Qui est donc un critique de cinéma qui a beaucoup écrit pour les Cahiers du cinéma, qui est aussi un historien qui a écrit beaucoup de livres sur l'histoire du cinéma, sur la Nouvelle Vague, Truffaut, Godard, enfin énormément de livres. Tu l'as rencontré parce que il participe à la programmation,
oui.
du
C'est
festival.
Lui qui fait la programmation. Oui.
Il le fait tout seul.
Je sais pas, j'ai pas abordé le sujet.
D'accord, ok. Et donc, tu as enregistré cette interview,
oui.
Qu'on va écouter, mais avant, tu as peut-être...
Non, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais être très bref. Moi, je ne vous recommande aucun film sur ceux... Il y a des films, et il en parle, qu'il y a à voir dans, dans l'interview, mais je vous recommande surtout la conférence de Pascal Horry, qui aura lieu samedi après-midi, pour un coup qu'on a un académicien... qui vient à Orléans et qui est un grand historien, profitons-en.
Donc samedi après-midi,
samedi après-midi, je crois que c'est 14h.
Enfin, au Cinéma des Carmes ?
Non, c'est doit être
à côté...
À Canopée.
Oui, c'est une conférence qui fait. C'est
Canopée, pas... qui est à côté de la librairie Les Temps Modernes.
Oui, non. C'est ça, tout à fait.
Oui. Ok, voilà la recommandation de Claude. Je n'ai pas regardé la programmation, je ne sais pas si vous les autres, vous avez...
Rapidement.
Oui. Voilà.
Si vous avez...
Si, moi j'ai regardé rapidement et c'est vrai que je pense qu'il y a la plupart des films importants de cette année-là et quelques films assez riches et bien dans l'esprit de l'époque comme La Belle Équipe, voilà, la vie est à nous de Renoir, des films qui sont pleinement dans le temps politique de cette époque-là et qui sont certainement, en tout cas, qui peuvent être découverts par des jeunes générations, ça c'est sûr.
Mmh. Antoine Debecq en parle dans son interview.
Mmh. Ok, ouais. Eh bien,
on va l'écouter.
On l'écoute et on se retrouve juste après.
Antoine Debecq, la cinquième édition du Festival Récidive est consacrée à l'année 1936. 1936, c'est une date importante dans l'histoire de France. C'est la première fois que la gauche arrive au pouvoir avec le Front Populaire, sauf en 1924 avec le cartel des gauches. Qu'est-ce que le film qui a été choisi en ouverture est Le Crime de Monsieur Lange ? Qu'est-ce que ce film a de 1936 ?
Alors le film de Jean Renoir est sorti en janvier 36. Donc,
Et tourné en 35.
Voilà. Donc le film de Jean Renoir est tourné en 35, sorti en janvier 36, donc il précède le Front Populaire, hein, qui est mai-juin 36. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas rechercher dans Le Crime de Monsieur Lange, comme on pourra voir dans des films postérieurs de Renoir, comme par exemple La Marseillaise, qui est un film directement inspiré par le Front Populaire. Et c'est sûr que dans Le Crime de Monsieur Lange, on va trouver plutôt une sorte d'esprit 36, c'est-à-dire un peu ce qui a préparé le Front Populaire, cet esprit de fraternité, hein, d'abord, c'est quelque chose de très important, là, cette coopérative, hein, qui est mise en place par les employés, solidarité, fraternité, les employés des éditions Batala, hein, qui se regroupent pour redresser une maison en faillite et qui vont, voilà, tous ensemble rencontrer à la fois le succès et puis devoir lutter et combattre. Ça, c'est la deuxième chose importante du film, hein, c'est le combat politique, le combat social. Ce sont des gens qui se regroupent parce qu'ils ont un adversaire, en l'occurrence, voilà, un patron véreux. On pourrait dire que c'est aussi, dans ce sens, un film qui récupère des choses du contexte. Hein. Et puis, le combat, il est mené aussi grâce au cinéma et grâce à l'art, à la culture. Et ça, c'est aussi quelque chose qui préside au film de Renoir, Le Crime de Monsieur Lange. C'est le film le plus proche de ce qu'on appelle à l'époque le groupe Octobre. Le groupe Octobre, ce sont des jeunes militants, hein, autour de Prévert, autour de Brunus, auxquels Renoir fait appel et qui sont un petit peu dans l'agit-prop, hein, qui sont dans ces spectacles de rue, souvent, qui sont des spectacles qui essaye de faire connaître et de faire sentir l'esprit révolutionnaire. Et puis le dernier élément qui pour moi fait très Front populaire, hein, c'est quelque chose de très renoirien, hein, c'est l'espèce de vie, de fête, de joie, hein, qu'on peut trouver dans le film. Voilà, tous ces moments, par exemple, de repas, de chansons, cette culture aussi populaire de la bande dessinée, puisque voilà, Arizona Jim, hein, c'est cette culture populaire qui est mise en avant avec Amédée Lange qui dessine et qui conçoit comme ça quelque chose qui est proprement lié à cette culture populaire joyeuse, un petit peu irrévérencieuse aussi avec la culture classique. Et c'est ces trois éléments, moi je dirais, qui font du Crime de Monsieur Lange peut-être un film de l'esprit Front populaire sans être un film du Front populaire. Hein. Voilà, la fraternité, le combat et puis la joie de vivre, en fait.
Quel est pour vous le film qui représente le mieux l'esprit de 1936, donc tourné après 1936, bien évidemment?
Alors moi, je veux mettre en avant cette occasion, grâce à votre question, je vous remercie, quelque chose qui va être très présent dans cette édition, cette cinquième édition 36 de Récidive, c'est les documentaires. Et 1936, c'est vraiment la naissance. En tout cas, c'est le moment en France où le documentaire va avoir une place très importante, et notamment des documentaires qui sont commandés par des partis, hein, le Parti communiste par exemple, mais aussi des municipalités. Là. Et donc, je voulais mettre en avant le documentaire qui s'appelle « Les Châteaux du Bonheur », hein, qui est commandé par la municipalité de Gennevilliers, sur ces châteaux qu'elle achète et qui deviennent des colonies de vacances. Et donc c'est les premières colonies de vacances de Gennevilliers. Il y en a une en Normandie, une autre dans le Loiret, qui, voilà, des châteaux ont été rachetés par la municipalité pour installer les enfants l'été. Bon, ça dit bien sûr quelque chose de très important lié au Front populaire, hein, c'est les congés payés, c'est à la semaine de 40 heures, c'est ce souci que le gouvernement du Front populaire a pu avoir, hein, tout d'un coup, ce souci social et ce souci de mettre en quelque sorte les jeunes sur la route, de les mettre dans les colonies de vacances. Et ça, c'est un film qui est très passionnant parce qu'il montre comment ce processus se met en place, et puis il fait parler les témoins de l'époque, notamment le maire de Gennevilliers, Jean Grandel, hein, qui se met à parler de son projet, et puis voilà, des enfants, c'est la place des enfants aussi, hein, des jeunes et des enfants, c'est aussi très important dans cette période du Front populaire. Donc voilà, mon choix est un peu paradoxal, c'est un film que personne ne connaît, qu'on va découvrir ici, hein, c'est un film de 50 minutes, un documentaire qui s'appelle « Les Châteaux du Bonheur ».
Ben, j'irai bien évidemment le voir. Et pour vous, dans tous les films qui ont été tournés après 36, après 37, 38, enfin, bon, il y a eu effectivement le fameux événement de 39. Qu'est-ce que 36 a changé dans tout le cinéma français ? Comme 68 a changé beaucoup de choses.
Alors 36, c'est... On ne peut pas ne pas parler de Jean Zay.
Bien évidemment.
Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale à 32 ans et des Beaux-Arts, qui a donc sous sa tutelle le cinéma. Et Jean Zay a une politique très ambitieuse pour le cinéma. Et d'une certaine manière, ce festival Récidive doit à son existence à cette politique très ambitieuse, puisque Jean Zay, dans sa réforme du cinéma, qui s'appelle le statut du cinéma français, c'est une réforme qui est à la fois économique, mais qui est aussi une réforme de la corporation, qui est une réforme pour aider aussi à la qualité des films. Et dans cette réforme des statuts du cinéma français, il y a aussi l'idée de donner des vitrines importantes au cinéma français, et d'où l'idée chez Jean Zay du Festival de Cannes. Le Festival de Cannes comme à la fois une réplique antifasciste à la Mostra de Venise, oui, oui. Sous domination italienne, et aussi comme vitrine de ce nouveau cinéma français qu'il tente de réformer, vitrine du cinéma français à l'intérieur d'une vitrine internationale, hein, puisque tous les pays sont conviés, et le premier festival de Cannes doit se tenir en septembre 1939, et il a été conçu par les équipes de Jean Zay, de façon très rapide, comme ça, en une année, et donc voilà, le festival ne va pas avoir lieu malheureusement, puisque la guerre, le 1er septembre 1939, quand le festival doit s'ouvrir, l'Allemagne envahit la Pologne, c'est la guerre. Le festival est annulé au dernier moment, mais il reste bien sûr la trace de ce festival qui, on peut dire, va changer le cinéma français, va changer le cinéma mondial, hein, et que nous avions essayé en 2019, rappelez-vous, de reconstituer. Oui. On avait retrouvé dans les archives à la Cinémathèque française toutes les traces de ce festival, les sélections, le jury, et on avait joué un peu ce jeu de refaire le Festival de Cannes 39, et c'est à la suite de cette édition, hein, en 2019, 80 ans après le Festival de Cannes 39, le premier festival mort-né de Cannes, eh bien, à la suite de cette réédition 80 ans plus tard, eh bien, le Festival Récidive était né, hein, un petit peu dans la lignée de ça, et ça me permet aussi bien sûr de saluer... quelques semaines, quelques jours après sa disparition, Hélène Moucharzet, la fille cadette de Jean Zay, puisque Catherine, sa sœur aînée, qui a disparu il y a quelques temps, et Hélène était venue me proposer, hein, justement de lancer cette réédition du Festival de Cannes 39 en 2019, et c'est de là d'où est née Récidive, et Hélène Zay était un petit peu la marraine, hein, de notre festival. Donc on pense très fort à elle en ouvrant le festival Récidive ce soir.
Antoine Debecq, Radio Campus Orléans, vous remercie. Et merci au Carme pour le festival.
Merci beaucoup.
Merci Claude pour cet entretien que tu as mené.
De main de maître.
Oui. C'est très intéressant, effectivement, il parle, voilà, aussi d'où vient le Festival de Cannes et d'où vient du coup le Festival Récidive.
En fait, je viens juste de faire la relation, parce que je le savais, le Cannes 39, je sais comment ça s'est passé. Avec, ouais. J'ai une polémique avec un garçon, je voudrais bien le rencontrer, il s'appelle Loub, ici, qui dit, je suis en train de chercher le nom de ce diplomate français qui revient du Festival de Venise.
Oui.
Où c'est Renoir qui a dû être consacré, hein. Et en fait on a filé ça, je sais plus qui, l'influence de Mussolini. Mm-hmm. Et c'est là où est né dans le train, le type pense il faudrait qu'on fasse un festival, mais qui n'a pas été très simple. Moi j'ai assisté aux conférences de Cannes de Récidive sur le festival de 39. Les Américains nous ont encouragés à le faire, mais ça devait lieu à Biarritz et pas à Cannes. tout d'abord. Et puis, les Américains avaient quasiment fait un cahier des charges. Ça a été très difficile d'instaurer le festival. Mais c'est bien évidemment Jean Zay qui a initié, et ce garçon, puisque je suis en train de rechercher son nom de ce diplomate, puisque moi j'en ai parlé avec Michel Ferry, parce que lui il dit, moi j'ai pas de trace de ce garçon. Et Michel Ferry m'a donné, où il y a une note de Jean Zay, où ce diplomate rédige, et il met en dessous « m'en parler ». Donc c'est bien, je ne sais pas où il a été chercher ça. Et cette question avait été posée par quelqu'un d'autre lors de la conférence, justement avec Pascal Horry, à laquelle je n'ai pas assisté, où il y avait Loub, à ce festival. Bon.
C'est le... est-ce que c'est Philippe Erlanger?
Exact. Oui. Philippe Erlanger, c'est lui.
Le diplomate.
Le diplomate en question, c'est Philippe Erlanger. C'est lui qui a eu cette initiative. Et il fait un rapport à Jean Zay, et Jean Zay, j'ai dit « m'en parler ».
Donc c'est bien.
Bon, ils en ont bien parlé en tout cas.
Bon, on accélère.
On revient à 2026.
On revient effectivement à aujourd'hui. Profitez-en. Donc en ce moment, le Festival Récidive a lieu donc jusqu'au 29 mars. Donc allez-y, allez voir plein de films. 2026, oui. Aujourd'hui, eh bien, je propose Gob. Écoute, toi, tu as vu Alter Ego, un film de Nicolas Charlet et Bruno Lavaine, si tu peux nous en parler.
Alter Ego, moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, il faut dire qu'il y a notre Laurent Lafitte national, césarisé récemment, qui fait encore un numéro, et on peut même dire là un double numéro, puisqu'il joue un double rôle. Alors, c'est quand même extraordinaire, parce que, vous voyez, vous me prenez un acteur avec un certain charisme, vous lui donnez un rôle où il devient chauve. Et tout d'un coup, il perd incroyablement de sa superbe. Après, bon, il joue aussi dans ce sens-là. Et vous lui mettez à côté un voisin qui débarque de nulle part et qui est lui-même, mais avec des cheveux, et le Laurent Lafitte, plein de charisme, qu'on connaît. Et effectivement, le Laurent Lafitte chauve va commencer à développer une espèce de paranoïa vis-à-vis de son nouveau voisin, qui est son sosie, effectivement, avec des cheveux, et en sachant qu'il n'y a que lui qui semble se rendre compte que ce nouveau voisin est son sosie. Et du coup, ça augmente encore sa paranoïa. Alors, à partir de là, va se développer une histoire un peu dingue, pleine de faux-semblants, pleine de choses trappes, avec énormément d'humour, parce qu'il faut savoir que ces deux réalisateurs, ils viennent de l'école Canal+, de l'école de la comédie Canal+, et ils ont travaillé avec Édouard Baird, notamment, et ils faisaient une pastille qui s'appelait « Message à caractère informatif », qui était très drôle, très décalé. Alors, c'est tout à fait dans cet esprit-là. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a Claude, il y a un super scénario avec un rebondissement final vraiment épatant qu'on ne voit absolument pas venir et qui retourne un peu le film aussi quelque part. Et puis voilà, c'est très très cynique, c'est très drôle et très cynique en même temps, c'est très surprenant. Et puis il y a des numéros d'acteurs jubilatoires. Il y a Laurent Lafitte, effectivement. Blanche Gardin, elle est géniale aussi. Il y a l'actrice russe ukrainienne que tu aimes beaucoup,
Kurilenko.
Vincent Kurilenko, voilà. Franchement, c'est un plaisir, un vrai petit plaisir, un peu coupable par moment, mais par les temps qui courent. Un petit plaisir comme ça, ça ne se refuse pas.
C'est pas un...
Quelle intention il poursuit quand il fait avec le double? Quelle intention il poursuit avec son double? En fait, c'est pour démontrer quoi?
C'est un film sur le comment dire, la confiance en soi, l'image qu'on a de soi-même.
D'accord.
Et c'est assez subtil, en fait. Derrière cette comédie un peu, on va dire, légère par moments et assez satirique et tout, il y a, je pense, une vraie interrogation sur quelle image on renvoie on a de soi-même, quelle image on renvoie aux autres, et à quel moment tout ça peut se dérégler. Et là, on est dans un dérèglement, et un dérèglement qui va aller vers des choses de plus en plus dingues. Et après, bah, c'est l'imagination aussi des scénaristes. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à ce film qui est quand même très méchant, finalement.
Bah ouais, mais je trouve que c'est quand même un problème, parce que toi, Gob, tu souffres pas de calvitie, mais la calvitie est très mal vue, et en fait, ça participe à la discrimination des personnes chauves. Et je trouve que c'est un peu un problème, en fait.
Bah, justement, je pense, Céline, qu'il faut le prendre dans le film. Justement, le fait qu'il soit chauve fait que lui-même se sent tout d'un coup, alors que c'est quelque chose qui ne lui a jamais posé problème avant, semble-t-il en tout cas, dans sa vie, avec sa femme, avec ses proches au travail, avec ses amis et tout. Et là, tout d'un coup, il se sent, et je pense justement que le film joue là-dessus, joue sur cette image que tout d'un coup, lui-même se déprécie, lui-même et tout, parce qu'il a, à côté de lui, un type qui a justement des cheveux, et tout va s'établir sur là-dessus. Et je pense justement que le film, à ce niveau-là, est très intéressant, parce que finalement, un détail, on peut dire un détail physique, va tout dérégler. Et je pense que pour moi, un des intérêts du film est là. Mais je pense que c'est pas du tout. À aucun moment il y a comment dire une dimension de se moquer ou de. Non, c'est vraiment ce type se déprécie lui-même parce qu'il se met en compétition dès le départ avec ce type uniquement pour ça.
Bah ouais, je trouve que ça un peu problématique, mais bon. très bien. Et bien, on va passer à un autre film. Il me semble que vous avez vu, Arnaud et Vincent, Les rayons et les ombres.
On est trois, parce qu'il y a aussi
Claude. Oui.
Et du coup, ouais, heureusement que tu as passé le film de Xavier pour qu'on ne revienne pas dans les années 30 et 40, parce que là, on va y revenir pour 3h15. Donc voilà, finalement, on va faire un retour en arrière de nouveau. Hein. Oui, on l'a vu hier, non avant-hier,
oui, lundi. Avant-hier.
Le dernier film de Xavier Giannoli. Xavier Giannoli, c'est un grand réalisateur français du moment. On l'a connu surtout, il a émergé à l'origine. Hein. C'est un peu le film qu'il a vraiment fait connaître avec l'histoire de l'autoroute et du gars qui arnaque un peu tout le monde. Je sais plus tout le monde.
Ça fait une vingtaine d'années qu'il tourne.
Donc il revient avec un film. Alors là, pour le coup, assez ambitieux, même s'il avait déjà juste auparavant fait un film déjà très grand, très très vaste sur la presse au détour du 19e siècle.
Oui, l'adaptation. De Balzac, Les Illusions Perdues.
Que moi j'avais pas vu, du coup faut que je me le rattrape parce que je l'ai. Et donc là il revient avec un film assez monumental de 3h15 sur la. Pour résumer en un seul mot, puisque le mot est cité plein de fois dans le film, la collaboration, un mot qui fait mal entendre, qui est fatalement corrélé à beaucoup de souvenirs désagréables pour nous, la France, surtout à cette période assez tragique, hein, fatalement, de 39-45, et même un petit peu avant, puisque le film démarre en 35 ou 34, je sais pas, il démarre entre les deux guerres, en fait. Le résumé, c'est un peu complexe parce que voilà, il est assez vaste, assez dense, même s'il y a un petit pitch qu'on peut faire très simplement, c'est le portrait d'un père et de sa fille. Lui s'appelle Luchère, elle aussi du fait.
Jean Luchère
et Corinne Luchère. Et ils vont traverser ces années sombres en prenant fatalement d'un essence de la pièce sur laquelle va tomber. Pile ou face, je ne sais pas dire, mais ils vont se retrouver plutôt à collaborer plutôt que de subir, on va dire. Et donc, c'est cette intrigue qu'on va suivre avec eux par le récit qu'elle fait, parce que ça démarre par un enregistrement au magnétophone. Ça, c'est cocasse, mais bon, on ne va pas dire pourquoi. Mais voilà, et elle raconte, en fait, en 48, après les événements, comment ça s'est passé, comment ils ont été amenés petit à petit à s'impliquer. Alors, on comprend pourquoi, parce qu'il y a des racines qui s'installent dès l'entre-deux-guerres, parce qu'ils ont créé une amitié avec un équivalent de lui-même, enfin du personnage joué par Jean Dujardin, qui est un Allemand. Ils ont créé une sorte de fédération de l'amitié franco-allemande.
Oui, mais alors, attends, parce que tu vas un peu trop vite. Ouais. Le but, justement, oui. de cette amitié au départ, est effectivement une tentative de mettre en avant le pacifisme.
Bien sûr, le pacifisme, c'est le mot-clé au début. Hein. Ouais, tout à fait.
Je veux dire, ils sont potes parce qu'ils veulent plus jamais ça.
Plus jamais ça, on est sur l'après, ouais, la guerre des Verts.
Et le plus jamais ça, justement, va devenir
encore ça.
Voilà. Je peux ajouter, bien sûr. Comme je suis vieux, j'ai été élevé par un grand-père qui avait fait la guerre 14-18. Oui. Donc j'ai été élevé dans ces esprits de pacifisme.
Bien sûr.
Il m'avait dit, Claude ne fait jamais la guerre. La guerre, c'est affreux, c'est atroce. Moi, il est parti à 18 ans dans les tranchées. Absolument. J'ai vu des ne parle plus jamais de guerre. Et c'est en fait ce film, c'est le, comment le pacifisme sombre dans la collaboration.
Exactement.
Ouais. Sombre dans la collaboration. Je laisse poursuivre.
Oui, c'est vrai, non, mais c'est tout à fait ça, en fait. Et tout l'enjeu est là. C'est-à-dire que ça part des meilleurs sentiments, et c'est ça qui est fort au début du film. C'est bien de passer le postulat de départ. Où on est vraiment sur une phase où on dit, il ne faut plus jamais connaître ça. Alors qu'on est à 4 ans de l'abîme. Et en fait, petit à petit, les choses s'imbriquent, les personnages se construisent, ils choisissent de nouveau des positions. Et c'est là que c'est assez fascinant. Après, voilà, ça se déroule, c'est romanesque. C'est un film qui est très romanesque, comme je vous laissais parler mes collègues. Mais après, c'est peut-être... Je vais vite faire mes petits reproches. Stylistiquement, c'est classique. C'est ça qui m'a un peu déplu. C'est que c'est à la fois... Ça permet quand même d'avoir un film qu'on ne souffre pas pendant 3h15, qui coule vraiment bien grâce à son récit, très romanesque, justement. Il n'y a pas de temps mort, et ça, c'est très bien sur 3h. C'est bien incarné, surtout par le personnage joué par la jeune femme. Alors, c'est une jeune actrice, mais qui est issue d'une relation avec un père mémorable, c'est Léos Carax, qui est donc la fille d'Olios Carax, qui s'en sort super bien, qui est extrêmement impressionnante sur l'écran.
Donc, bon sang ne saurait mentir.
Oui. C'est vrai. Non, mais là, pour le coup, elle est assez fascinante. Oui. Elle porte vraiment plus le film. Jean Dujardin, il fait le job, mais moi, je ne suis pas un gros fan de Jean Dujardin, même s'il assure.
C'est Nastia Golubeva.
Carax. Putain, les noms. Mais voilà. Après, moi, voilà, j'ai pas de temps mort. Des questions fascinantes sur aujourd'hui, qu'on peut appliquer à la situation du jour. C'est-à-dire, c'est ça qui est fort avec ces films historiques, c'est qu'on peut les projeter, les calquer. Il y a des phrases clés qui sont dites à certains moments du film qui peuvent s'appliquer à ce qui se passe maintenant, aujourd'hui. Et donc, c'est d'ailleurs assez perturbant. Oui. Je me demande si Giannoli l'a prend facilement. À partir de ça, moi, j'ai passé un bon moment. C'est pas drôle du tout, puisque ça parle aussi beaucoup de la tuberculose. C'est un sujet que moi, j'adore, ça me fascine, parce que c'est une maladie de siècles et des siècles précédents.
Je vais t'en parler.
Et voilà, bah, bien sûr. Mais voilà, et je trouve que dans le film, c'est relativement assez rare qu'on la détaille autant dans sa crasse et dans son horreur. Mais il fallait bien resituer aussi une époque et une conjoncture où les gens étaient des morts-vivants parfois. Et donc, ce qui pouvait amener à des décisions parfois aussi de jusqu'au boutiste, parce qu'ils imaginent qu'ils ont plus de vie dans 4 ans. Donc tout ça, c'est intéressant. C'est bien imbriqué et ça fait un film que je trouve assez formidable quand même. Voilà. J'essaie de faire court, mais...
Oui, t'as pas fait court.
Non, désolé.
Allez, vas-y, enchaîne.
Mais bon. Alors, par contre, justement, je vais combler quelques petits trous, à savoir que les personnages en question ont existé.
Oui,
c'est basé sur des faits réels et sur des personnages réels. Que la jeune fille de son père... se lançait dans le cinéma, démarrait sa carrière au cinéma d'actrice, carrière qui, bon, évidemment, on a pris beaucoup de plomb dans l'aile. Après, pour le reste, t'as à peu près tout dit. Comme toi, j'avoue que la mise en scène m'a pas époustouflé. Bon, la lumière est bien, ça. Les acteurs donc sont bien. Jean Dujardin, je suis un peu comme toi. Moi, je l'ai découvert sur des trucs comiques, pas forcément très fins. Et du coup, j'ai un peu du mal à le détacher de cette image-là. Mais bon, j'avoue quand même qu'il fait plutôt bien, franchement bien le job. Je remarque quand même, certaines. Bon, il y a beaucoup de scènes, et c'est ça que je reproche à la durée du film. Qui sont un peu répétitives entre les scènes de d'orgie, de bal, etc. Enfin, de bal, on va dire d'orgie, etc. Et les scènes de compromission des uns et des autres. Ce qui m'a un peu fait halluciner, mais là, c'est juste un petit détail, c'est le budget tabac du film.
Ça fume beaucoup, je suis d'accord.
C'est hallucinant.
On a plus l'habitude. Hein.
C'est rare, oui, c'est très rare.
Là, c'est même pas l'habitude, c'est-à-dire que...
Chaque plan, pratiquement.
Il y a quasiment pas un plan où ils en allument une, où ils l'ont déjà au bec. Enfin bref, passons. Claude.
Oui, donc je vais être bref. Donc, je viens de le dire, c'était le procès du pacifisme. Et comment le pacifisme, en fait, s'est fait manipuler par les extrêmes. Et c'est
tout à fait ça.
Notre ami le faisait remarquer en disant « Attention, c'est notre époque ». Et c'est vrai.
Oui, bien sûr.
Comment le pacifisme s'est fait matraquer par les... complètement manipulé par les extrêmes. C'est aussi le portrait d'un homme. Moi, je me suis attaché au portrait de cet homme qui aime beaucoup la vie. Mmh. Et c'est en fait l'hédonisme qui l'emporte sur les convictions. Et pourquoi il y a l'hédonisme chez ce mec-là ? Parce qu'il a la tuberculose. Ouais. Et la tuberculose, c'est pas anodin. Il faut savoir que la tuberculose, c'est la maladie Chopin des amoureux. Mmh. C'est la maladie des mecs qui aiment la vie.
Les mélancoliques, oui.
Et quand on parle d'espèces de folie, je me revois encore avec le monsieur qui allait devenir le grand médecin, professeur Rideau, faisant le mur du sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet pour aller dans les boîtes de nuit à Grenoble, à 40 kilomètres. Voilà, quand on est en sana, voilà à quoi passe son temps. Bon,
c'est voilà. Très bien décrit dans le film.
Oui.
Ça.
Alors, donc, effectivement, oui.
Effectivement, quand ces types savent qu'ils sont condamnés, parce oui. qu'en
43-44, il n'y a pas de...
43-44, c'est à partir de 50, je crois, ouais. qu'on, à partir de la streptomycine, le rimifon... Et
les antibiotiques
le PAS.
Modernes,
ouais. Là, quand il y a eu cette association des trois, on ouais. a su guérir la tuberculose. Avant, on savait pas guérir ouais. la tuberculose. Et ces types se savent, comme elles, ils se savent condamnés. Et quand on s'est condamné, ben on brûle la vue par
on
les deux.
La chandelle.
Et ils brûlent la vie comme c'est pas possible. Mais il y a qu'une chose. Moi, je me suis interrogé parce qu'il avait 4 ou 5 enfants, Jean Luchaire. Et cette relation avec sa fille, alors est-ce que c'est la tuberculose, est-ce qu'il est rassemblé? Mais il y a une relation là qui est saine, mais qui est quand même qui oui. moi me pose.
Il y a quelques,
oui, mais
il y a une pose, ou deux scènes où
qui me pose
où
quand même un peu problème. Mais pour en terminer, pour moi c'est quand même un grand film. On peut tout critiquer, pour passer des heures, c'est quand même un grand film.
Finalement. D'accord. Oui. Donc, Les rayons et les ombres de Xavier Giannoli, qui est encore à l'affiche. Et...
Qui vient de sortir,
oui,
quasiment. Ça fait une semaine.
Oui, une semaine. Mmh. Bon, tu sais, il y a des films...
Il est sorti, oui, il y a des films qui passent très très rapidement, oui. Je suis d'accord avec toi.
Mais bon, oui, lui, a priori, vu toute la com' qu'il y a autour oui. du film, il va rester
Il devrait fonctionner un peu.
Et si on parlait de cinéma d'animation? Puisque Gob, toi, tu as vu donc Scarlett et l'éternité de Mamoru Hosoda.
Alors Mamoru Hosoda, bah, c'est un très grand réalisateur japonais d'animation. Je pense même que c'est peut-être le deuxième ou troisième plus grand réalisateur d'animation nippon de ces 20 dernières années, on va dire. Et là, c'est son 9e long métrage. Alors, il faut savoir quand même qu'il a signé des films comme Summer Wars, comme Les Enfants Loups Ame et Yuki, comme Mirai, ma petite sœur, qui est une merveille absolue, La Traversée du Temps, récemment Belle. Voilà, enfin, il a un CV dans l'animation exceptionnel. Et là, en fait, Scarlett et l'éternité, c'est une adaptation d'Hamlet, sauce nippone, où Hamlet devient une fille. Donc l'héroïne, c'est une Hamlet au féminin qui va se retrouver donc, on va passer rapidement sur l'histoire, mais qui va se retrouver, on va dire, au royaume des morts, qui va devoir aller affronter son oncle félon au royaume des morts, ce qui nous vaut quelques visions assez hallucinées et hallucinantes. Alors esthétiquement, c'est magnifique, c'est dû au soda, ça, y a rien à dire. Y a des scènes d'une beauté vraiment. Moi, j'étais enchanté, en plus de le voir, d'avoir la chance de le voir sur grand écran. On dira jamais assez quelle chance on a de pouvoir continuer à avoir des films sur grand écran. Et après, bon, j'ai quelques réserves sur la manière dont les scénaristes ont adapté Hamlet. Et puis surtout, moi, j'ai quand même une grosse réserve, c'est que par moment, et moi ça m'a quand même un petit peu plombé le film, malgré toutes ses qualités, c'est que pour la première fois j'ai vu un Hosoda aller dans la direction Disney. Il y a une ou deux scènes chantées qui sont épouvantablement insupportables. Et là, moi ça m'a quand même plomber le film, et c'est bien dommage parce que c'est un film qui par ailleurs a de très très grandes qualités esthétiques et scénaristiques, et franchement il y a deux embardés, on va dire, qui correspondent peut-être à une vingtaine de minutes de film dans l'univers Disney, et ça te casse quand même un peu quelque part le rêve.
Ah mince, ouais, cette influence de Disney, mince. Quel dommage. D'accord. Donc, c'était donc Scarlett et l'éternité de Mamoru Hosoda.
Qui, malheureusement, n'a eu aucun succès en salle. Un désastre.
Ah, mais j'en ai pas entendu parler.
Un désastre. Apparemment, c'est un désastre financier en salle.
Eh bien, il est peut-être même plus en salle.
Je crois que c'est terminé, ouais.
Eh bien, moi, je vais vous conseiller un film que j'ai beaucoup apprécié. C'est Las Corrientes de la suisso-argentine Milagros Mementeler. Je ne sais pas sûre de bien le prononcer, mais c'est son troisième long métrage, qui un film qui a pas eu beaucoup de com. Mais c'est donc l'histoire d'une styliste argentine qui devient hydrophobe d'un coup, après s'être jetée dans un fleuve sans raison, comme si elle était attirée par le fleuve. Donc c'est hyper étrange. Le film commence par une scène très longue qui, sans commentaire, sans dialogue, c'est... on plonge vraiment, voilà, comme le personnage dans ce film qui nous interroge beaucoup, et c'est ça qui m'intéresse. Voilà, j'adore ces films qui donnent pas toutes les réponses et qui nous laissent la place, le temps de se questionner, et on cherche du coup, nous en tant que spectatrices, des détails dans chaque image pour comprendre donc le geste de ce personnage, et de comprendre, et puis de voir la conséquence. Donc et le personnage aussi s'interroge, voilà, aussi. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on s'interroge comme le personnage. Et du coup, moi, j'y perçois vraiment une femme qui se sent pas toujours à sa place, qui, en fait, c'est une transfuge de classe, qui s'élève dans la société... Dans la haute bourgeoisie c'est d'aujourd'hui, hein, c'est un film qui a lieu aujourd'hui, et en fait on perçoit sa difficulté à trouver sa place dans la société. Enfin, moi je perçois ça, je perçois aussi cette peur aussi d'être éphémère, en fait, un peu comme la mode qu'elle crée. Qui est aujourd'hui aussi très très éphémère, qu'on consomme, et on découvre aussi une relation avec sa mère qui est peut-être aussi le déclic. On voit au début du film la broderie. En fait, voilà, c'est des petits détails comme ça qu'on peut comprendre au fil du film, et je trouve que c'est vraiment bien mené. On aborde aussi tout ce qui est trouble obsessionnel, enfin la peur de l'abandon. Enfin, il y a énormément, voilà, de choses que l'on perçoit, mais qui sont pas forcément si évidents. Et c'est ça que je trouve intéressant, que ce soit un personnage très mystérieux et qui nous ressemble aussi du coup beaucoup, où on n'est pas sûr de tout, de tout ce qu'on subit aussi dans la société, de comment on peut évoluer, de toutes nos craintes, de reproduire aussi ce que notre éducation a pu aussi nous amener. Et au-delà de ça, la photographie est très belle. Il y a un peu un côté fantastique et une mise en scène aussi qui nous montre uniquement ce qu'on peut, enfin ce que le personnage accepte de nous montrer. Enfin voilà, j'ai adoré donc Las Corrientes de Milagros Mementaler.
C'est vrai que le cinéma sud-américain en général, depuis quelques années, on voit de très nombreux films qui usent finalement de l'argument fantastique pour développer des thèmes, des thématiques sociales, et je pense que c'est quelque chose de très présent dans le cinéma aussi américain. On l'a encore vu récemment avec Agent Secret, c'est vrai que c'est quand même très intéressant cette manière qu'ont les Sud-Américains de développer toutes ces thématiques sociales à partir de récits fantastiques, de mélanger un peu le genre avec l'interrogation sociale. Ça, c'est, je trouve que c'est très intéressant.
Tout à fait, je te rejoins. On enchaîne, hein, voilà. Claude, tu nous as parlé donc la dernière fois de La Danse des Renards,
oui,
de Valérie Carnoy,
oui,
et il est à l'affiche,
oui,
en ce moment. Tu as réalisé une interview,
oui,
du réalisateur. On peut du coup la diffuser là parce qu'elle ne dure que quelques minutes.
Oui.
Est-ce que tu veux...
Je vais simplement... parce que la première question, je ne sais pas pourquoi, n'apparaît pas, alors qu'elle n'est pas avec Antoine Debecq, ça fonctionnait. Mais la première question n'a pas été enregistrée. Alors je vais... Comme on est en direct, tu t'enchaînes derrière avec le...
Oui,
la première question était celle-ci. Valérie Carnoy, vous faites un film sur la rencontre entre une blessure et un doute. Réponse du réalisateur, c'est exact. Je fais le portrait d'un garçon qui somatise, mais ne sait pas qui somatise. D'où vous vient cette histoire? Je présume qu'elle n'est pas sortie comme ça, purement de votre esprit. Je sais que vous avez été un sportif de haut niveau. Vous avez été un sportif, en tous les cas. Football, c'est ça?
Alors, donc j'ai pas été sportif de haut niveau, mais j'ai fait du foot en sport-études. Et j'ai eu en effet un accident. Bon, moi, pour le coup, il était concret. Donc, c'est une artère qui s'est déchirée suite à... J'ai traversé une porte vitrée. Et, mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que j'ai eu... La convalescence a duré longtemps. Elle m'a rendu très faible et très vulnérable pendant tout le moment où j'ai dû récupérer en fait de mon accident. Et ça m'a rapproché. Ce moment-là m'a rapproché de ma sensibilité. Et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être un bon point de départ pour une histoire. Maintenant, le côté, on va dire, post-traumatique, j'ai eu après des problématiques psychosomatiques suite à l'accident. Donc j'étais persuadé que la mort allait finalement me rattraper. Et à l'époque, j'ai pas pu communiquer là-dessus, parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. C'est les médecins qui m'ont expliqué que c'était dans ma tête, donc c'était extrêmement compliqué, parce que je souffrais quand même de terribles crampes un peu partout, et qu'elles étaient purement psychosomatiques. Et donc je trouve que ça a été intéressant de ramener ça au cinéma, et de matérialiser ça, de permettre aux jeunes actuellement d'avoir un film qui fait référence à l'angoisse, au psychosomatique et tout ça. Donc voilà, d'y apporter ma petite pierre. En tout cas, ce sont des films que j'ai pas trouvé, que j'ai pas pu voir jeune et que j'aurais peut-être aimé voir jeune pour pouvoir communiquer sur mon problème.
Moi, j'ai compris tout le film hier soir quand je vois ce plan de Samuel au championnat d'Europe. Il a ce regard, et tout votre film est dans ce regard. Pourquoi je vais aller casser la figure du type d'en face? On voit tous ses doutes.
Ben là, je vais te laisser répondre, Sam.
Ben, c'est sûr qu'en fait, il y a un côté un peu pathétique dans l'histoire. C'est-à-dire que ben, le personnage, il va continuer d'aller boxer malgré que ça lui fasse mal, malgré qu'il y ait une douleur psychosomatique. Et en fait, on se demande pourquoi est-ce qu'il va le faire, puisqu'on n'a plus l'impression que ça lui plaît. Et on sent qu'il y a tout un contexte qui l'encourage à aller faire ça et à y consacrer presque toute sa vie, puisque c'est des boxeurs, ils ont aucune place dans leur vie pour faire d'autres choses. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut lui ? Donc il y a le coach, les amis, les parents, tout le monde a envie qu'il gagne et qu'il fasse ce championnat et tout le monde l'encourage. Mais lui, en fait, finalement, la boxe, c'est un sport où tu donnes des coups, il y a du danger, où il y a des gens qui meurent, où il y a des traumatismes, il y a des complications vers 40 ans et tout. Donc c'est un sport qu'il faut vraiment vouloir pour le faire. Et là, il se pose ces questions-là de pourquoi est-ce que je vais blesser quelqu'un et risquer de me faire blesser pour ça.
Deux questions. Vous êtes acteur. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer un personnage que vous n'êtes pas et dire des mots qui ne sont pas les vôtres?
Bah, il faut que ça devienne les vôtres, quoi. Il faut que les mots deviennent les vôtres. Mais c'est chouette parce que ça permet de faire un pas de côté dans sa vie, quoi. D'aller voir un peu d'autres vies, d'autres histoires qui t'amèneraient à dire ces mots-là, qui ne sont pas les tiens de base, t'as raison.
Et enfin, dernière question pour vous. Comment passe-t-on de la psychologie au cinéma?
C'est une belle question. Moi, personnellement, j'ai fait de la psychologie parce que voilà, je pense que tout ce qui m'est arrivé dans mon adolescence, notamment cet accident et tout ça, m'ont poussé à vouloir comprendre des mécanismes que j'avais peut-être pas compris quand j'étais adolescent. Donc de là est venue la psychologie. Le cinéma, ça arrivait assez tard dans ma vie. En fait, j'avais pas du tout vocation à devenir cinéaste. Et ce que je pense surtout, c'est que mes études de psychologie, la maturité que j'ai acquérie, m'a permis de rentrer dans une belle et grande école de cinéma qui m'a donné, en tout cas, l'opportunité de devenir un cinéaste aujourd'hui. Mais il n'y a pas vraiment... rien n'a été calculé. Ce que moi, la psychologie m'offre, par exemple, dans le cinéma, c'est qu'elle m'a offert une magnifique compréhension d'altérité et surtout, elle m'a permis de désacraliser les humains, les gens. Et donc, quand vous avez désacralisé l'humain, vous n'y êtes plus effrayé et vous osez faire les choses, vous avez confiance en vous. Donc, ce sont des études qui m'ont au final énormément apporté et qui me permettent aujourd'hui d'avoir le courage, en tout cas, de raconter des histoires et sans avoir peur de mal faire ou de dire des mauvaises choses.
La psychologie aide à la composition des personnages sur le scénario.
Alors, c'est évident que quand vous avez été psychologue, vous comprenez des mécanismes de construction d'histoire, parce que vous récoltez des témoignages de personnes, et c'est des détails dans ces témoignages qui vous ouvrent tout un univers. Donc évidemment, vous savez que vous pouvez, quand après vous écrivez vos personnages, vous voulez arriver à une cohérence logique et psychologique, et y amener des petits détails qui vont complètement ouvrir la vision du spectateur. Donc ça vous aide, mais je pense que tout bon cinéaste a une compréhension du psychologique, et d'ailleurs quand vous êtes psychologue, il y a de bons et de mauvais psychologues. Être un bon psychologue, c'est quand même arriver quand même à ouvrir son oreille, à accueillir un témoignage et essayer d'y interpréter des choses. Mais c'est compliqué d'interpréter, puisque vous ne savez jamais quelle est la perception de la personne qui est en face de vous. Donc il faut surtout apprendre à écouter, et ça c'est en tout cas une des belles qualités de ce qu'on apprend, en tout cas quand on est en stage en psychologie.
Et enfin, dernière question, Samuel a une blessure, le boxeur a une blessure, et la question est un peu absurde, mais vous n'avez pas pu ne pas y penser. S'il n'avait pas eu cette blessure, est-ce qu'il aurait abandonné la boxe quand même?
Moi je pense que le processus d'abandon aurait été plus lent. La blessure a juste ouvert une porte dans son psychisme et a permis à son psychisme de lui communiquer quelque chose, de lui dire c'est ça vraiment que tu veux, c'est t'infliger ce mal-là. Parce que voilà, être boxeur, c'est quand même s'infliger des coups, c'est quand même une vie dure où on est quand même mis sur un ring, il y a quand même quelque chose de très très violent. Est-ce que lui, à un moment donné, il avait besoin de cette violence, mais est-ce qu'il veut continuer à l'accepter? Et donc la blessure ouvre justement la porte à se dire, est-ce que c'est ça que je veux? Maintenant, il faut qu'il arrive à le conscientiser, et c'est là que va être toute la difficulté pour lui, et c'est de là que l'histoire va naître.
Oui, Samuel Kircher, Valérie Carnois, merci pour cette interview. Merci.
C'est des très bonnes questions, en plus. Et moi, je vais retourner dans mon lit.
Et merci beaucoup Claude.
Ah, quel intervieweur Claude.
Alors il a été.
Je prends des leçons là.
Il a été psychologue chez les délinquants. C'est pour ça. Oui, c'est un garçon. Okay. Mais on devait se revoir. Mais il a été malade. Il n'avait pas dormi de la nuit. Mmh. Et puis je l'ai pas. Il est parti parce qu'il était. Il était exténué.
Oui. Et en plus, donc t'as interviewé donc le réalisateur l'acteur. Valérie Carnois et l'acteur Samuel Kircher.
Qui est le fils d'Irène Jacob.
D'accord.
Okay. Ah, ces histoires de famille dans le cinéma.
Effectivement.
On n'en sort jamais.
Xavier a tout dit.
Ça se répète.
Mais et donc tu les as rencontrés au festival Premier Plan à Angers. Oui. Et donc voilà, le film est à l'affiche. Donc mais merci beaucoup Claude.
Je les ai interviewés.
Très intéressant. Ah,
parce que le courrier de l'Ouest m'avait jeté précédemment.
D'accord. Donc j'ai fait ça. T'es rabattu. Il nous reste encore deux films, il me semble.
Alors, je vous engage à aller voir La Danse des Renards. Hein.
Mm-hmm. Oui.
C'est pas
j'ai déjà coché ça dans mon
c'est agenda.
C'est
pas un très, très grand film, mais c'est un film qui est très intéressant parce qu'il dit beaucoup, beaucoup de choses.
D'accord, ok. Ensuite, eh bien, Gob, toi, tu as vu La Maison des Femmes de Mélissa Godet.
Un film qui t'aurait beaucoup intéressé, Céline,
oui,
je pense.
Oui, je sais, je
pense. Ouais. Comme ça, en sortant...
Je peux comprendre pourquoi, mais il y a des choses qui me dérangent dans la bande-annonce. Mais vas-y, dis.
En tout cas, moi, j'ai trouvé le film vraiment réussi. Je pense que ce film réussit à trouver un bon équilibre entre le didactisme et quelque chose d'un peu plus romanesque, on va dire, parce qu'on est effectivement face à quelque chose de tout à fait concret. Hein. C'est la naissance de la première maison des femmes à Saint-Denis, la manière dont ça va essaimer dans le reste de la France, les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes qui s'en occupent, en l'occurrence Karine Viard, qui joue le rôle de celle qui gère un peu tout le lieu. Les difficultés financières, l'IJAS qui vient les surveiller, ils savent pas s'ils auront des financements ou pas. C'est un peu une lutte au quotidien aussi avec des femmes. On voit différents types de souffrances. Effectivement, elles ont beaucoup de femmes africaines qui ont été confrontées à l'excision. Donc Karine Viard joue aussi une médecin qui refait les corps. Il y a Laetitia Doche. Enfin, après, il y a un super casting. Vraiment, tous les acteurs et les actrices sont très bons, très à leur place. Et le film, moi, je pense, réussit vraiment à trouver un bon équilibre. En plus, la réalisatrice, elle a réussi à mettre un peu d'humour. Il y a quand même des moments où il y a des échanges entre les personnages. Il y a des moments où, au milieu d'un sujet quand même assez lourd, assez douloureux, assez plombant, par moments, elle arrive quand même à injecter de l'humour, des moments de vraie respiration. Et voilà, moi pour moi, ça fait partie de ces films qui peuvent toucher un public un peu plus large, tout en étant très informatif, tout en étant assez didactique, un peu romanesque. Et l'ensemble, ça fait un film finalement qui peut effectivement toucher un public plutôt large et qui réussit quand même sa mission d'information et qui réussit à être assez émouvant. Voilà, c'est mon avis.
Ok. Donc La Maison des Femmes de Mélissa Godet, qui est encore à l'affiche actuellement. Merci Gob. Je crois qu'il ne reste plus qu'un film.
Notre ami Laszlo.
Tout le monde a parlé de ces films, hein, que je n'oublie personne. Oui, effectivement, le film de Laszlo Nemes.
Le retour de Laszlo Nemes.
Oui, Orphelin.
Ah, mais oui,
dès que je l'ai vu, je me suis dit, oui, il faut que je voie le film de Laszlo Nemes. Donc, réalisateur aussi du Fils de Saul, de Sunset. Voilà, ces deux précédents films qui ont quand même bien marché. Enfin, surtout le Fils de Saul qui a été primé à Cannes en 2015. Donc je voulais absolument le voir. Enfin, il a un travail sur l'image qui est incroyable, sur la mise en scène. Donc là, Orphelin, donc son troisième long métrage. Claude, tu l'as vu aussi. Hein,
oui.
Oui, c'est ça. Donc c'est un hommage à son père. Donc j'ai vu ça après. Et donc c'est inspiré de l'histoire de son père, Orphelin. Et le film se déroule en 1957, en Hongrie, pardon, je vais y arriver. En Hongrie. Et je savais plus, mais c'est juste après la révolution contre le gouvernement pro-soviétique.
Oui. Budapest, 56.
Budapest 56.
Oui, 56, ouais. Et Budapest. Donc l'histoire se passe en 57, donc juste après la révolution de 56. Et donc l'ambiance est hyper pesante face à une politique très répressive. Et on suit donc un jeune garçon qui avait été placé à l'orphelinat pendant la Seconde Guerre et qui est récupéré par sa mère, qui est une femme juive. Donc elle le récupère après la guerre. Voilà, et donc on suit, et donc on est en 1957 en Hongrie. Et durant tout le film, en fait, on reste à la hauteur de l'enfant. Et on subit du coup tous les secrets, tous les non-dits, cette mère qui tente de s'en sortir et qui est finalement quand même rattrapée par le père biologique de l'enfant, qui est un homme violent, qui est loin du père idéalisé par le jeune garçon. Et c'est de ça aussi donc va parler le film. Et donc Laszlo Nemes, il filme toute la désillusion, la frustration d'un enfant de pouvoir aussi agir face au mal qu'il voit, qu'il perçoit, ou même de mal agir, tout simplement parce que c'est un enfant en fait, et qu'il est dans un environnement violent, un pays violent, une politique violente, et donc un enfant voilà, a forcément ses limites, c'est pas, sa place n'est pas dans cet environnement. Et donc Laszlo Nemes dépeint tout le traumatisme de la guerre, la violence aussi de cette politique autoritaire. Et c'est donc un film aussi à la fois intime et politique, qui est tourné en pellicule. Donc c'est voilà, encore une fois, c'est très très beau dans la photographie, et c'est ce qui permet, enfin la pellicule permet vraiment, je trouve, de vraiment se plonger dans la réalité de ces années 50. Et ça aide vraiment à être...
Tu le sais, puisqu'on l'avait interviewé ensemble, c'est un fou du 35. Hein.
Oui,
faut
oui,
pas
carrément.
Lui parler du numérique. Hein.
D'ailleurs, c'est le Fils de Saul qui avait été projeté en pellicule au Carme, au cinéma.
Et Sunset aussi.
Sunset aussi, ah, d'accord. Ouais. Donc c'est vrai qu'il a vraiment cette volonté, ce plaisir de travailler la pellicule et de projeter en pellicule, ce que je peux comprendre. Mais le dispositif de Orphelin est différent de ses précédents films où voilà, il a vraiment été enfin, le point de vue restreint à la hauteur du personnage qu'on voit dans Le Fils de Saul et dans Sunset, là on ne l'a pas dans Orphelin, mais on l'a d'une autre, une autre façon en fait. Je trouve qu'on reste quand même à la hauteur de l'enfant, mais en termes de scénario et en termes de mise en scène en fait, on reste à la hauteur de l'enfant en termes de scénario, mais pas en termes de mise en scène. Mais ça rend aussi cet effet d'être à la hauteur de cet enfant.
J'ai juste deux questions sur ce film, tu en as bien parlé. C'est, au fond, cette mère qui est très effacée. Moi, je voudrais savoir sur le sens politique qu'il y a derrière. Est-ce que, finalement, dans une dictature, on est finalement écrasé, qu'on ne peut rien faire? C'est cette femme qui est très importante et qui est très effacée. Elle est très, je me répète, elle est très importante parce que c'est elle qui... Qu'est-ce qu'elle a... On peut, elle subit en fait.
Oui, elle subit.
Elle subit un mari qui n'est pas le sien, qui n'est pas le père de l'enfant. Il n'y a que l'enfant qui réagit.
Elle subit tout.
Est-ce que, son effectivement, dans une dictature, qu'est-ce qu'il y a derrière? Connaissant la Soldémez, il y a forcément quelque chose derrière.
Oui. Hein. Alors, d'ailleurs, donc, cette femme.
C'est un historien. Hein. Faut pas faire... Il a fait Sciences Po Paris et il est historien.
Mais oui,
donc,
oui, oui.
Oh bah, c'est un film d'historien, de philosophe.
De philosophe. Donc, il y a forcément la dictature derrière. Moi,
déjà,
je vois ça comme ça.
Déjà, c'est une femme. Oui, elle est juive. Donc, tout le traumatisme aussi de la guerre. Elle a été cachée. Elle a été violée. Donc, aussi. C'est tout le traumatisme aussi qu'elle a vécu, mais parce que dans le film, tout le monde ne subit pas. Enfin, voilà, cet homme,
il subit pas.
Lui, voilà. Donc, enfin, faut voir aussi qui subit ou pas. Oui. Et c'est vrai